Il est à présent l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien, et nous sommes bien au-delà des deux heures pétantes. Donc aujourd'hui, le temps de tout retrouver, de m'installer, c'est l'émotion, c'est incroyable. Voilà, je suis prêt. Aujourd'hui, nous allons parler de la biographie de Frida Kahlo, qui a été inspirée à Dominique Ozouche par le choc émotionnel qu'elle a ressenti lors de l'expo à l'Orangerie. C'était en 2014. L'énergie d'étoile et la matière organique la bouleversent. Pour réaliser cette biographie, Dominique Ozouche a fait un voyage de repérage sur les lieux où a vécu Frida Kahlo, au Mexique. Résultat, une œuvre en bande dessinée rare, un récit d'une énergie folle, autant que la vie de Frida Kahlo elle-même. Nous sommes avec Dominique Ozouche vers 14h15, peut-être un peu plus tard, parce qu'il est quand même déjà 14h09, pour découvrir en profondeur l'œuvre de Frida Kahlo et l'artiste elle-même. À tout de suite. Écriture dessinée. Alors, les brèves. Eh bien, pour ces brèves, que dire ? Oui, alors donc, pour les brèves, il y en a une déjà, c'est la réédition du livre de Guy Delisle intitulé Pyongyang, qui était une sorte de récit de voyage que Guy Delisle avait fait en Corée du Nord. Et c'est un livre important parce que il y avait eu quelques récits, mais c'était une sorte de portrait seulement à charge. Et là, Guy Delisle était présent à Pyongyang pour sa profession. Il est réalisateur de films d'animation. Il a fait tout le suivi de projets, de films. Et donc, il était à Pyongyang puisque les studios de bande de dessins animés travaillaient avec différents pays du monde, en Corée du Nord même. Alors, c'était un voyage très encadré. Et Guy Delisle met tout cela en récit avec une très grande efficacité. C'est un livre qui est sorti il y a plus de 20 ans et les éditions de l'association ont fait une réédition avec une présentation plus soignée, un cartonnage, une reliure de grande qualité. Le jaspage pour l'ensemble des pages, c'est donc une couleur qui se trouve sur les images et qui donne une finition bien plus élégante. Et donc, le récit, cette réédition est au prix de 28 euros, et c'est vraiment une belle occasion de redécouvrir ce livre important dans l'œuvre de Guy Delisle. Shadok. Oula, c'est court. On a à peine eu le temps d'avoir le bruit de des vitres qui claquent, qui tombent. Alors, j'avais prévu une deuxième brève, et ben ça va être plus court que prévu. Alors, cette brève. Eh bien, qu'est-ce que je peux... Ben non, je l'ai plus, j'ai pas mon papier, je le retrouve plus. Voilà, ça fait partie des catastrophes que l'on peut vivre comme ça en direct. Alors, ce que je vous propose, en plus ça nous permettra de rattraper un peu ce temps, même si l'intérêt d'être sur ces radios associatives que l'État veut mettre en veilleuse, ce qui est un projet tout à fait scandaleux. Bien, c'est que c'est ce rapport à l'antenne n'est pas soumis avec ce même cette même rigueur excessive que l'on peut avoir dans des très grandes stations de radio publique. Donc, on va démarrer et continuer avec un des deux livres qui encadre cette biographie de Dominique Ozouche. Donc Frida Kahlo, un tramway nommé Diego. Le livre qui va précéder donc cet entretien est celui de Nicolas Prel, intitulé « La ville ». Alors, Nicolas Prel est un artiste important qui a une œuvre unique, on peut le dire, puisqu'il a basé ses récits sur une contrainte qui est celle de l'absence complète de dialogue, de texte. Donc pas de onomatopée, rien, uniquement un récit avec des cases muettes. Son œuvre commence à être conséquente, il a toujours eu une fidélité importante à cette contrainte, et c'est d'autant plus intéressant qu'avec plus d'une dizaine d'œuvres, on voit comment la contrainte va agir, va se développer. Et la ville, sur les mêmes bases, donc cette contrainte bien sûr, mais sur un rapport au dessin, un rapport à la représentation, qui est une sorte de fil conducteur également dans son œuvre, eh bien il est vraiment réjouissant de voir à quel point Nicolas Prel continue de prendre de l'ampleur et de donner des récits tout à fait inhabituels. Alors la ville, le récit. La ville au bord de l'eau grouille de monde. Dans un club, les gens pleins d'insouciance s'amusent, boivent, dansent. Un couple s'enlace et s'étreint. La ville semble bien douce. Un premier cadavre est découvert dans l'eau, les orbites vides, le corps décharné, le visage émacié. Puis un deuxième, flottant au large. Un troisième, ne tarde pas à apparaître, sortant de l'eau, menaçant, claudiquant, vers le couple, acculé dans sa luxueuse villa. Puis d'autres émergent, et d'autres encore, créatures infectées ou macabées, revenues du monde des morts, de plus en plus nombreux. Ils vont néanmoins trouver leur place dans l'énorme cité, mais tout en bas, à la marge. Parqués, surveillés par des drones, victimes de ratonnades, les créatures sont néanmoins capables de solidarité. Et quand la colère gronde, que la révolte s'organise et que les grandes tours se mettent à flamber, c'est que l'heure de la vengeance a sonné. Alors, ce récit est étonnant parce que lorsque l'on démarre par cette scène qui se déroule dans une boîte de nuit où les corps se rapprochent, les relations se mettent en place, on ne sait pas vraiment tout ce qui va se passer. Et pourtant, il y a ce mouvement dans le récit qui est aussi marqué par la forme narrative et le découpage, la mise en image que Nicolas Prel choisit et qui est très souvent récurrente, c'est-à-dire une sorte de gaufrier avec une base de 4 images par page, avec les quelques variations que l'on peut avoir. On a donc 4 images identiques avec un espace entre les images important. Et cette régularité va faire que on va être tout le temps dans une dynamique du cadrage, de la mise en image, qui va permettre vraiment au récit de prendre toute son ampleur. Je le rappelle, la régularité de l'image, des images et la hauteur identique, même lorsqu'il y a une variation dans le découpage et que 2 cases, par exemple, sont rassemblées pour en faire qu'une seule, eh bien, il y a cette cohérence complète du récit qui se met en œuvre. C'est comme le rapport au film, à l'image filmée, lorsqu'on est au cinéma, il y a cette régularité du cadre qui fait que l'intérieur du plan va prendre toute sa force, toute sa dimension. Quand le réalisateur utilise cette possibilité-là. Là, Nicolas Prel va avoir cette même exigence et donc, dans cette juxtaposition de par exemple, assez fréquemment, 8 cases par double page, on va avoir cette continuité du récit et qui est porté par ces changements d'angle de vue, ces plans larges, plans lointains, plans rapprochés, portraits. Donc, on a un mouvement de caméra, un mouvement d'angle de vue qui est toujours construit à bon escient et qui va faire sens sur l'ensemble de chacune des doubles pages. Et on a cette efficacité narrative qui va naître aussi de cette conception même de la mise en image, de cette organisation du cadrage et de cette régularité de la mise en image. Ça, c'est effectivement pour la forme qui fait que Nicolas Prel va explorer et donner à chaque fois une dimension supplémentaire à ces récits. Vous l'avez entendu dans le résumé, il y a cette dimension de la pandémie qui va avoir lieu, cette relation à la mort qui est très forte, notamment par l'apparition de sortes de précaires, d'être complètement réduits en esclavage, avec cette opposition très forte entre les nantis et les laissés pour compte et les premières victimes de ce type de pandémie, avec une organisation sociale qui va chercher à permettre aux nantis de poursuivre sans encombre leur vie indigne, littéralement, et qui se soucie très peu de ces précaires et du peuple soumis et souvent réduit en esclavage. Il y a une nouveauté dans la ville qui est une utilisation graphique d'un effet qui va parfaitement fonctionner. Le couple qui est à la base de ce récit, qui est un peu récurrent, s'abreuve d'une boisson en canette qui est symbolisée avec un rond un peu important qui contient à l'intérieur, en son centre, un rond noir. Donc on a ce rond noir inscrit dans un rond blanc, un peu comme un œil. Et il va y avoir un glissement, comme si cette boisson qui anesthésie un peu les réflexes, les sensations, va devenir et rentrer en correspondance avec l'œil même des personnages, et on va avoir la case qui va se transformer et qui va reprendre la forme de cet œil avec le trait, le contour de celui inscrit à l'intérieur, et ça va devenir une sorte de lentille pour voir les scènes qui se déroulent et qui montrent cette déformation due à la consommation assez frénétique de cette boisson. L'idée fonctionne très bien parce qu'il va y avoir associé à ce changement de cadre et de forme de case une sorte de libération des contraintes, des sensations des personnages qui vont oser, qui vont transgresser, et c'est une très bonne représentation d'un décalage dû à cette consommation de boissons et c'est parfaitement limpide. Il y a aussi une autre variation pour que on revienne à la normale et à ce découpage avec ces 4 cases par page, ces 8 cases identiques par double page. C'est donc un récit où avec uniquement l'image, sans aucun texte, sans aucune explication, qui fait qu'on va construire nous-mêmes par cet ensemble de séquences, nous-mêmes cette représentation de la ville, d'un pouvoir qui utilise par exemple la surveillance des drones, de cette rébellion qui s'organise, de cette opposition entre les personnages sains et ces êtres au regard très sombre avec ces grands yeux noirs qui leur donnent des allures de mort-vivant, un peu à la manière de Romero dans La nuit des morts-vivants. Et on a un contraste très fort qui est immédiatement intense à l'image entre cette révolte des laissés pour compte et ces nantis qui tiennent sans aucune dignité à garantir et à poursuivre et à profiter de leurs privilèges. Nicolas Prel est un auteur qui devient essentiel, qui poursuit son grand œuvre, qui est d'une force étonnante, puissante, qui surprend à chaque fois. Et c'est même à tel point que la relecture de l'ensemble de son œuvre va montrer encore de façon plus criante la qualité de son écriture et la portée toute simple de son œuvre. La ville de Nicolas Prel est publiée par les éditions Atrabile. Il y a plus de 312 pages à ce récit. C'est un très beau travail d'une maison d'édition suisse qui est soutenue par la communauté de Genève. Et c'est des programmes sur 3 ans qui montrent que ce type d'aide à l'édition est beaucoup plus intelligente parce qu'elle permet de prévoir une ligne éditoriale sur 3 ans sans être sans cesse dans les demandes de subventions. Très beau travail de compagnonnage entre les éditions Atrabile et Nicolas Prel. Donc les 312 pages de La Ville dans la collection Flegme des éditions Atrabile est au prix de 27 €. Et cette fois, c'est la musique.
¿Cuántas criaturitas se ha chupado usted?
Señora, ninguna, ninguna, no sé. Ando en pretensiones de chuparle usted.
Volando por el aire, va volando.
Le projet de la biographie de Frida Kahlo est né du choc émotionnel ressenti par Dominique Ozouche lors de l'exposition à l'Orangerie en 2014. Plus de 10 ans après, sort Frida Kahlo, un tramway nommé Diego. Pour rester au plus près de l'intensité de cet émoi, Dominique Ozouche débarrasse la vie de Frida Kahlo de cette icône marchandise pour restituer l'énergie des toiles, leur matière organique et aussi sa force de vie, son combat pour l'art. Le titre impose l'importance de Diego Rivera dans l'œuvre de Frida Kahlo, dans sa vie bien sûr. Dominique Ozouche met en image la personnalité tumultueuse de l'artiste mexicain. Se révèle un portrait poignant de cette femme combattante dont l'œuvre est habitée par la douleur et la mort. Dominique Ozouche est plasticienne, peintre, sculptrice, illustratrice, dessinatrice. La dimension picturale de sa bande dessinée, nourrie d'un réalisme de la mise en couleur directe, intensifie la présence des images. Des œuvres sculptées sont intégrées à des doubles pages comme autant de têtes de chapitre, des moments clés de la vie de Frida Kahlo. Pour être au plus près de l'artiste, Dominique Ozouche a réalisé un voyage de repérage au Mexique, présenté dans une postface. Par cette dimension picturale inédite, Frida Kahlo, un tramway nommé Diego, est une biographie audacieuse, sensuelle et habitée. Une biographie rare. Nous sommes avec Dominique Ozouche. Bonjour Dominique Ozouche.
Bonjour Bruno, vous avez tout dit, donc...
On va peut-être pas s'arrêter là. Alors, je trouve important de présenter et qu'on puisse rentrer un peu plus en détail de ce qui s'est passé en 2014 à l'Orangerie et de comment s'est structuré le projet de cette biographie pour arriver à un récit d'ampleur qui fait plus de 200 pages.
Oui, eh bien, c'est effectivement un choc émotionnel que j'ai eu en voyant les originaux, parce que je connaissais Frida Kahlo comme tout le monde, un petit peu de loin. Et puis en passant par là, par hasard, je suis entrée dans cette exposition et je ne m'attendais pas du tout à recevoir un choc pareil en voyant ses œuvres. Et les originaux respirent tellement quelque chose d'organique et de tellement fort, une présence vraiment, vraiment réelle de cette femme, que ça m'a énormément touchée et donné l'envie donc de faire cette biographie. Ensuite, cette biographie a été, je l'avais proposée initialement à un autre éditeur, mais à cette époque-là, un contrat avait déjà été signé avec d'autres auteurs pour faire justement une biographie sur Frida Kahlo. Donc j'ai remisé ce projet et puis j'ai travaillé sur Nijinsky dans l'intervalle. Et puis au bout de quelques années, n'ayant toujours pas vu apparaître, ni paraître d'ailleurs ce livre sur Frida Kahlo, j'ai ressorti mon projet et puis j'ai représenté ça cette fois chez Futuropolis. Et voilà, c'est comme ça que ce projet ancien a ressurgi.
Alors, il y a le corpus des œuvres, mais il y a aussi le corpus des écrits, comme les écrits de Frida Kahlo, ceux de Diego Rivera. Il y a également quelques biographies. Alors, comment avez-vous procédé pour écrire cette biographie avec cet ensemble d'éléments?
Je me suis beaucoup servi de la thèse qui avait été écrite par Eden Herrera dans les années 70, si je ne me trompe pas, sur Frida Kahlo, qui est très complète, qui est vraiment très documentée. Et je l'ai enrichie avec les écrits qui ont été notamment ceux de Diego lui-même, puisqu'il a écrit ses mémoires. Je me suis servi également des écrits de Frida Kahlo elle-même, puisqu'elle a tenu un journal. Elle a aussi écrit des choses, des poèmes, pas mal de... Et son journal est illustré aussi avec beaucoup de dessins. Et donc, tout ça mis bout à bout, en effet, j'ai essayé d'en retirer vraiment la substance de cette femme, quoi.
Alors, c'est une relation entre Frida Kahlo et Diego Rivera qui, bien sûr, est au centre de cette biographie, d'où ce titre. Comment de l'extérieur, et en tant que plasticienne, ressentez-vous ce parcours très atypique de Frida Kahlo, qui aime donc cet homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui a une personnalité absolument exubérante? Comment faire émerger Frida Kahlo au milieu d'une telle, de ce pachyderme, comme il est nommé à plusieurs reprises?
Oui, justement, c'est vrai que la personnalité de Diego Rivera est tellement imposante, c'est un ogre en soi, quoi, que la petite Frida à côté, au départ, c'est une petite fille quasiment toute menue, toute dans son coin, et qui n'ose pas tellement s'imposer devant le public. Et puis peu à peu, c'est vrai qu'elle prend de l'assurance et elle crée une œuvre qui va finir par être plus célèbre que celle de son époux. Parce que bon, au Mexique, Diego Rivera est vraiment vénéré, hein, c'est un personnage national, il y a des fresques de lui partout, et alors que nous, Français, Européens, Diego Rivera, a priori, on ne connaît pas tant que ça, quoi. Alors que Frida Kahlo, elle a atteint la renommée mondiale, beaucoup plus que Rivera, qui lui, à son époque, à l'époque où il était vivant et actif, était lui un peintre reconnu internationalement.
Dominique Ozouche, que va permettre pour aujourd'hui la lutte, parce que c'est encore une lutte pour la reconnaissance de cette égalité homme-femme, pour cette reconnaissance des femmes, alors qu'à l'époque de Frida Kahlo, ce n'était pas du tout le cas. Qu'est-ce que permet cette figure de Frida Kahlo dans les luttes d'aujourd'hui?
Ben, je pense qu'elle représente vraiment la femme libérée et indépendante. Et c'est pour ça aussi que c'est une figure très, très célèbre de nos jours, qui retrouve un écho, qui trouve un écho dans notre monde contemporain. Elle a su s'imposer malgré un époux extrêmement présent et qui lui était très volubile et qui savait effectivement faire parler de lui. Et malgré elle, en fait, c'était pas vraiment une volonté de sa part. C'était un personnage tellement sympathique et tellement elle attirait vraiment le désir chez les autres. Elle avait, je pense, une telle présence que ce n'était pas forcément volontaire de sa part, mais c'était sa façon d'être. C'était réellement sa condition à elle, quoi.
À quel moment l'image est-elle arrivée dans ce projet? La visualisation de l'image, est-ce que ça a toujours été associé de par votre profession de plasticienne, ou est-ce qu'il y a eu d'abord toute une phase d'écriture préalable?
Ben, c'est-à-dire que je conçois toujours les choses dans un ordre très précis, c'est-à-dire que j'écris avant toute chose et ensuite je passe à la phase iconographique, mais au moment où j'écris, j'ai mes images dans la tête, quoi. Je vois exactement ou à peu près ce que je vais représenter, et donc ça s'impose de soi-même en même temps, on va dire. Et je voulais restituer le monde du Mexique riche en couleurs et également le côté pictural, puisqu'il s'agit d'une peintre, donc j'ai utilisé de la gouache très colorée pour illustrer l'univers de Frida Kahlo.
L'utilisation de double pages avec des œuvres sculptées que vous avez réalisées, à quel moment elles sont arrivées? Dominique Ozouche.
Eh bien, comme je l'écris, que je le raconte dans la bande dessinée, Diego Rivera était un grand collectionneur de sculptures précolombiennes, de poterie, Et donc, comme j'avais l'occasion de travailler la terre dans un petit atelier de la commune où j'habite, j'ai eu cette idée d'intégrer effectivement des pièces en céramique et en poterie qui font écho avec la passion qu'avait Diego Rivera pour ses œuvres en terre et en pierre. Et donc le couple lui-même collectionnait en fait surtout Diego, mais ils avaient des centaines et des centaines de pièces et Diego a créé un musée, un mausolée pour les mettre à l'abri et il voulait être enterré dans ce mausolée, ce qui n'a pas été effectivement le cas, mais disons que c'était son projet, le projet de sa vie, quoi.
Dominique Ozouche, il y a aussi une dimension de Frida Kahlo qui apparaît très nettement dans votre biographie, c'est ce côté santé fragile, accident de la vie important, des séjours à l'hôpital, des opérations à répétition, qui donne quand même un parcours de vie tout à fait inhabituel.
Oui, effectivement, on ne peut pas parler de Frida Kahlo sans parler de ses problèmes physiques. D'ailleurs, ce sont ces problèmes-là qui sont à l'origine de sa peinture, puisqu'elle a commencé à peindre parce qu'elle était immobilisée dans un lit pendant des mois et qu'elle ne savait pas quoi faire de ses dix doigts. Et donc, c'est comme ça qu'elle en est venue à peindre. Et par la suite, ça a été un exutoire pour exprimer toutes ces douleurs, à la fois physiques et morales.
Dominique Ozouche, à quel moment et comment avez-vous contrôlé ou évalué l'ensemble du récit, donc l'ensemble des écrits? Comment avez-vous fonctionné pour avoir cette suite sur la vie de Frida Kahlo?
Alors, je voulais faire un récit qui ne soit pas trop haché, mais que l'on puisse quand même détacher des périodes de sa vie. D'où le choix de faire ces doubles pages qui rythment un peu la vie de Frida Kahlo par épisode et qui, en fait, à chaque fois, annoncent un petit peu les événements qui vont suivre.
Alors, Dominique Ozouche, je vous propose une pause musicale, votre deuxième choix. Et on est en pleine ambiance mexicaine par la musique, et on se retrouve donc dans quelques minutes pour parler encore plus précisément de dessin, de peinture et de sculpture. À tout de suite.
De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, vienen bajando un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tiene, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca.
Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran cielito lindo los.
Vous êtes sur Radio Escapade, nous sommes dans l'émission Écriture dessinée. Et nous sommes avec Dominique Ozouche en direct à l'occasion de la parution de la biographie Frida Kahlo, un tramway nommé Diego. Dominique Ozouche, vous avez réalisé un voyage de reportage au Mexique. Alors, pourquoi et parlez-nous un peu de ces jours passés sur les lieux de Frida Kahlo.
Alors en effet, j'avais envie d'être au plus près de la réalité mexicaine, et donc un voyage sur place me paraissait indispensable. Et donc je suis partie juste après avoir bouclé le scénario et le storyboard pour faire un repérage sur les lieux où avait vécu Frida Kahlo au Mexique, et notamment à Mexico. Et donc en fait j'avais préparé déjà mon storyboard était prêt de manière à ce que je puisse savoir exactement quels étaient les lieux et les cadrages dont j'aurais besoin pour illustrer cette biographie. Ce qui fait que je suis partie avec ça sous le bras et j'ai pu faire le tour des lieux en question avec mes croquis et prendre la documentation, les photographies qui m'étaient nécessaires. Donc c'était vraiment un grand bonheur pour moi d'avoir pu faire ce voyage. Et je l'ai fait en plus pendant la fête des morts, ce qui était vraiment un moment magique à Mexico.
Alors, est-ce que ce voyage de repérage a apporté des modifications dans votre storyboard ou avez-vous fait des découvertes sur place qui ont intégré votre récit par la suite ?
Alors, forcément, je n'ai pas trouvé tous les lieux que je cherchais, notamment la bibliothèque qui est illustrée en début d'histoire quand elle est étudiante à l'Université de Mexico. Donc cette bibliothèque, je l'ai en fait trouvée ailleurs. Je suis allée à Puebla et je suis tombée sur une bibliothèque magnifique. Donc j'ai un petit peu triché, on va dire, avec les lieux pour pallier à des choses qui avaient disparu ou que je n'ai pas trouvées sur place. De la même façon, à Cuernavaca, la maison qui est représentée, en fait, c'est un musée. C'est le musée Bradley. Qui est magnifique, qui était un Américain installé au Mexique et qui était un grand collectionneur. D'ailleurs, il a une peinture de Frida Kahlo parmi ses collections. Et donc, cette demeure magnifique m'a aussi permis d'avoir un décor qui soit en adéquation avec les lieux. Bon, après, c'est vrai que quand je feuillette, je me demande où sont passés les décors, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place non plus pour mettre autant de décors. Je me suis vraiment axée sur les personnages eux-mêmes pour être au plus près de la sensibilité de mes personnages.
Dominique Ozouche, vous avez utilisé la couleur directe, c'est un choix pictural différent de celui, par exemple, pour Nijinsky, sur la biographie de Nijinsky que vous avez faite.
Oui,
qu'est-ce que vous a permis le réalisme que vous mettez en œuvre avec la couleur directe ?
Bah, c'est exactement pour être au plus près des personnages. J'avais vraiment envie de restituer les expressions, les personnalités de Frida et de Diego au plus juste. Donc, et ça m'a semblé être le meilleur médium pour le faire.
Qu'est-ce que ça impose comme geste sur la table à dessin d'être dans ce réalisme ? Comment travaillez-vous, Dominique Ozouche ?
Eh bien, je travaille en utilisant des photos d'archives, beaucoup, sur Frida Kahlo, sur Diego Rivera, Trotsky, enfin tous les personnages célèbres, évidemment. Je me suis aidée des documentations qui existent et je les ai remises en scène avec de la couleur, parce que souvent ce sont des vieilles photos en noir et blanc. Donc là, j'ai imaginé des tenues en couleur, des lumières, des choses voilà, pour rendre ça au plus contemporain malgré tout. Il faut que ce soit, présent aujourd'hui.
Alors, vous avez parlé de Trotsky. Effectivement, il a été l'amant de Frida Kahlo. Il y a eu, d'ailleurs, Leonardo Padura en parle également dans L'homme qui a tué les chiens. Et donc, là aussi, d'intégrer la figure de Trotsky, il y a aussi la dimension communiste de Diego Rivera qui est importante. Frida Kahlo est également communiste. Alors, par rapport à cette dimension politique, comment avez-vous fonctionné, Dominique Ozouche, pour la restituer dans toute son importance?
Ça me paraissait effectivement incontournable d'en parler, puisque c'était le fondement au départ de leur couple. Ils se sont rencontrés lors de réunions politiques et puis par des amis communistes communs. Et ensuite, la venue de Trotsky, c'est un événement historique majeur quand même, puisqu'il a été assassiné à quelques pas de la maison de Frida Kahlo. Donc, et en fait, d'une certaine façon, elle est un petit peu, on ne va pas dire responsable, mais il y a quelque chose quand même qui s'est passé qui fait que Trotsky a été mis à la porte par Diego et qu'il a été assassiné. Bon, il aurait sans doute été assassiné d'une manière ou d'une autre tôt ou tard, mais quelque part, la liaison Frida-Trotsky n'est pas étrangère à sa mort.
La bande dessinée est une gestion du temps avec l'image. C'est pas le cas de la peinture, par exemple, qui n'a pas du tout le même rapport au temps, ou la sculpture. Oui. Qu'est-ce que vous apporte cette gestion du temps et de la dimension picturale de la bande dessinée?
C'est vrai que le temps dans la peinture, il est beaucoup plus long. Et là, j'étais dans une nécessité de rapidité, donc restituer le temps qui passe avec une technique qui est lente, enfin, a priori, qui demande du temps, effectivement, c'était un peu un défi pour moi.
Qu'est-ce que va permettre pour la suite d'avoir pu achever cette biographie de Frida Kahlo?
Eh bien, pour la suite, là, j'ai un projet. Je vais un petit peu m'éloigner de la biographie, mais pas tout à fait. Donc, je vais essayer de raconter l'histoire d'une personne qui n'est pas une personne célèbre, mais de l'inclure dans tout un contexte qui va en fait traverser plusieurs siècles. Donc là, je suis dans des recherches assez poussées sur en fait la chasse aux sorcières en Europe. Donc on est assez loin du sujet, quoique. Frida Kahlo était peut-être aussi un peu sorcière.
La couverture pourrait le laisser imaginer, d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Juste une dernière question par rapport au boycott des auteurs et autrices de bande dessinée du Festival d'Angoulême. Comment vous positionnez-vous, Dominique Ozouche?
Moi, je pense que le Festival d'Angoulême doit se remettre en cause. Et que finalement, bon, le fait qu'il ait été annulé, c'est peut-être, il prendra peut-être un nouveau départ. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique Ozouche. Je vais rappeler les caractéristiques de votre livre. Donc, la biographie Frida Kahlo, un tramway nommé Diego, est publiée par les éditions Futuropolis. Les 216 pages de ce livre sont au prix de 26 euros. L'éditeur en est Alain David, que donc on a eu en entretien il y a 15 jours. Et c'est donc un livre important, je ne cesserai de le dire et de le souligner.
Ben, je vous remercie beaucoup.
Merci, merci, à très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Merci, au revoir.
Que s'en passe de l'orgueil, que s'en passe de rencor,
que saco de la vida
si me falta tu amor. Pensando eso he venido a pedirte perdón,
a pedirte que vuelvas,
aunque tengas razón. Yo sé que tú has llorado,
aunque digas que no, y sé que hasta has deseado que te venga.
Estoy sufriendo, te vengo a demostrar que la vida sin verte no la puedo aguantar.
Voilà, je voudrais terminer cette émission avec le dernier livre de Bernard Cozet. Il s'appelle Yiyun. C'est un livre étonnant et qui montre que Bernard Cozet, qui est l'auteur, le créateur de la série Jonathan, qui a fait plusieurs one-shots, plusieurs œuvres différentes, étonnantes, comme À la recherche de Peter Pan. C'est un Suisse qui réside là-bas et, par exemple, son attachement à la montagne transparaît constamment dans son œuvre. Alors, Yiyun est un livre inhabituel. C'est une vraie surprise et qui commence notamment par un récit, une sorte de préface, mais de notice sur la tradition du papier découpé en Suisse. C'est signé Pierre Mottier, qui est le président de l'association du musée du Pays d'Hainaut, qui est une région suisse où le papier découpé y a un statut tout particulier. Donc, pourquoi démarrer sur cette tradition du papier découpé? D'une part, parce qu'il y a une fascination de la part de Bernard Cozet sur cet art. Et il y a quelques œuvres qui sont reproduites et qui montrent ce côté absolument étonnant, lumineux, merveilleux, puissant, inhabituel, qui a l'impression, on a l'impression que c'est en dehors de notre quotidien. Et donc, il y a une envie de rendre hommage à cette tradition du papier découpé qui était faite par des artistes, mais qui n'était pas revendiquée comme artiste, mais plutôt comme paysan, comme agriculteur, comme personne qui n'avait pas forcément de connaissances artistiques. Il y a déjà donc ce premier hommage, à tel point que Bernard Cozet s'est posé la question de savoir s'il n'allait pas faire une bande dessinée entièrement en papier découpé. Et il y a une autre préface un autre texte d'introduction qui est celui de Mahou, qui signe une préface en bande dessinée et qui raconte, elle, son parcours, puisqu'elle est chinoise et elle vient d'un orphelinat, puisque pendant de 1979 à 2015, donc pendant 36 ans, il y a eu la politique de l'enfant unique en Chine qui faisait que systématiquement les deuxièmes enfants, les filles notamment, parce que en ayant le droit que d'avoir un seul enfant, bah, si on avait une fille, c'était pas du tout aussi important et intéressant. Donc les filles étaient tuées. Et avec l'espoir qu'il y ait un enfant pour la grossesse, un garçon pour la grossesse suivante. Et puis il y a le récit en bande dessinée à proprement parler qui s'appelle Yeyun, où Bernard Cauzet va utiliser ces différents éléments, le papier découpé, la politique chinoise de l'enfant unique, et va créer un récit où les personnages principaux sont Urs et Helmut de Suisse qui voient donc arriver cette jeune chinoise sur leur territoire qui s'appelle Mei. Et puis il y a le personnage de fiction, Miss Wu, qui est une aviatrice et qui a eu quelques heures de gloire dans son avion. Et donc il y a des récits de fiction, trois livres qui ont raconté ses exploits. Donc on a le papier découpé qui va s'inviter littéralement dans ce récit à travers le personnage de Urs qui est donc artiste et qui va avoir une exposition à Londres, et ça va être un des fils conducteurs de ce récit. Et donc on va avoir un détournement un peu de la tradition du papier découpé qui a été très attaché à ces thèmes traditionnels, et Cauzet en a fait au contraire une technique pour évoquer le papier découpé de personnages de bande dessinée. Donc on va avoir aussi un noir et blanc qui va rappeler tout à fait ce travail de découpe de l'image comme pouvaient le faire ces artistes du papier découpé. On va retrouver toute la force de l'écriture dessinée de Bernard Cauzet, qui est donc celle d'un artiste donc avec un bagage narratif et dessiné important. On a cette même efficacité graphique, cette qualité du geste, cette qualité de la représentation, cette précision dans les visages et ces cadrages avec ces très grands espaces. Toutes les scènes de ski, par exemple, montrent une qualité de la gestuelle. Il y a notamment une case, page 42, où Mei est en train de descendre une piste et elle est en l'air, et toute la qualité du dessin se retrouve dans la précision de l'attitude de la skieuse. Cette narration est très fluide et elle a quelques libertés, comme par exemple des textes un peu plus abondants où carrément l'auteur dit « vous n'êtes pas obligé de lire ça, je vous en reparlerai à la fin ». Et en fait, c'est aussi pertinent à lire. Et c'est aussi un très grand coloriste avec des capacités de mise en couleur, de nuances, de contrastes ou au contraire de teintes très douces avec ces ambiances et cette lumière qui est propre à Bernard Cauzet. C'est un livre qui montre à la fois la liberté de narration, d'écriture, et puis l'ampleur de l'art de Cauzet. La couverture, simplement elle-même, montre que c'est un artiste qui, grâce certainement, comme il le dit, au prix du pour l'ensemble de son œuvre décernée en 2017 par le Festival d'Angoulême, a eu ainsi une sorte de liberté et de libération de son écriture qui donne aujourd'hui, eh bien, Yiyun, ce livre tout à fait remarquable. Donc le dernier Cosset publié par les éditions du Lombard, les 112 pages de ce récit sont au prix de 21,50 € et le livre a été imprimé en Belgique. Merci Fabien pour ces deux minutes supplémentaires et on se retrouve la semaine prochaine avec Hélène Alguerer et Léa, ça y est, j'ai oublié le nom, décidément aujourd'hui, c'est les trous de mémoire en pagaille. Donc en tout cas, c'est les deux autrices de la biographie d'Emma Goldman, femme et anarchiste. À la semaine prochaine.